Radio Okapi. Grande interview.
Quel bilan la majorité présidentielle dresse-t-elle de la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre une année après ? Quelles sont les innovations contenues dans la future loi minière en examen au Parlement ? Pour répondre à ces questions, grande interview reçoit Patrick Thierry André Kakwatangunza, les députés nationaux élus de Kolwezi, président du mouvement des réformateurs libéraux, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Enfin, il est également président de la commission environnement et ressources naturelles de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Honorable Kakwata, bonjour.
Bonjour Alain.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Vous le savez, l'actualité est dominée par la dernière marche du 21 janvier organisée par les laïcs catholiques où plusieurs bilans sont dressés. Les laïcs catholiques parlent d'une dizaine de morts, une centaine de blessés. La police nationale congolaise parle de 2 morts par balle perdues à Kinshasa et 9 policiers blessés, dont 2 grièvement. La MONUSCO parle de 6 personnes tuées. Comment vous analysez cette situation ?
C'est déplorable, d'autant plus que quand il y a déjà un mort, c'est déplorable, parce qu'on a arraché quelqu'un de la vie. Donc je ne sais pas trop parler, si ce n'est pas dire que je me joins aux familles des illustres disparus pour dire mes condoléances. Je compatis avec eux et je suis de cœur avec eux. C'est déplorable.
Là, on semble assister à une escalade verbale entre l'Église et le gouvernement. Finalement, jusqu'où ça pourrait aller ?
Vous devez comprendre que je suis parmi de ceux-là qui prêchent la sagesse, l'amour de la patrie, et plus qu'on puisse se dépassionner, que nous puissions voir au finish l'intérêt supérieur de la nation. À ce niveau, il faudrait que nous puissions utiliser plus de sagesse, que nous puissions plus avoir de l'amour de la patrie, et que nous puissions se dépassionner, trouver une solution. Ça ne sert à rien que nous puissions appliquer la politique de bras de fer. On ne gagnera rien, mais c'est ce peuple qui souffre. Nous devons tenir compte qu'il y a une misère et le peuple est en train de souffrir. Alors le moment est venu pour que nous puissions changer des stratégies, des parts et d'autres. Que ce soit du côté de la majorité, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de personnalités indépendantes, que ce soit du côté de la société civile, changeons des stratégies pour que le peuple se retrouve. Ce peuple souffre. Parce que nous tous, nous sommes en train de parler au nom de ce peuple. Mais réellement, ce peuple souffre et ce peuple est dans la misère.
Les laïcs catholiques réclament la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et en parlant de cette mise en application une année après, Félix Tshisekedi, président du rassemblement que nous avons reçu dans cette émission la semaine dernière, parle lui d'un bilan calamiteux où rien n'a été fait.
J'ai eu à le dire dans le passé, quand on parle que les bilans sont calamiteux, rien n'est fait. Il faudrait d'abord qu'on arrive à démontrer à quel niveau ces bilans sont calamiteux. Ça, c'est un. Et puis de deux, l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est un accord qui est personnifié ou c'est un accord pour trouver une solution afin que le pays puisse aller de l'avant. Pourquoi je le dis ? Notre Constitution n'a pas prévu un cas où les élections ne sont pas organisées dans le délai. Et on a pu trouver une voie d'issue en se disant qu'il y ait cet accord pour permettre, parce que nous n'avions pas prévu un cas où les élections ne sont pas réalisées dans les délais constitutionnels. Ne personnifions pas l'accord. À ce jour, vous me posez moi la question, je vous dirai que l'accord, le bilan est à 70%. Pourquoi je dis 70%? On nous demande qu'un premier ministre vienne de l'opposition du rassemblement. Le premier ministre que nous avons, lors de sa nomination, il est issu de l'opposition et du rassemblement. On nous demande à ce que nous puissions remettre le CNSA à l'opposition et au rassemblement. Le président du CNSA est du rassemblement, de l'opposition. On nous demande à ce que nous puissions avoir un gouvernement d'union nationale qui tient compte de l'opposition, de la société civile et de la majorité. C'est ce gouvernement que nous avons à ce jour. La décrispation de la situation politique, elle est en cours, en train de se faire. Et celui d'ailleurs à qui on a chargé cette mission n'est rien d'autre qu'un président venant de l'opposition, du rassemblement, le président du CNSA. C'est lui qui doit maintenant nous dire où en est-il avec les mesures de crispation du climat politique. Pour ma part, c'est un accord qui est exécuté à 70%. Alors pourquoi les traiter de calamiteux? Parce qu'on voulait personnifier que cet accord, il faut que ce soit tel qu'il soit Premier ministre. Là, c'est personnifié. La République a 65 millions d'habitants. Et il n'y a personne qui est indispensable.
Le Rassemblement, lui, estime que les mesures des décrispations politiques n'ont pas été appliquées, avec la libération des prisonniers politiques, l'ouverture des médias, la restructuration de la CENI, par exemple, tous ces éléments-là, l'opposition estime que ça n'a pas été appliqué.
Évitons de faire voir à la face du monde que la CENI n'est pas indépendante. Vous devez comprendre que si aujourd'hui nous sommes censés à tout moment demander la restructuration de la CENI, il faudrait déplacer tel pour qu'on mette tel, nous sommes en train de fragiliser cette institution et directement nous allons l'ôter de son autonomie et de son indépendance. Parce qu'à tout moment, tel ne nous plaît pas, il faudrait qu'il parte, qu'on mette tel. Nous sommes en train de fragiliser cette institution. Évitons de fragiliser la CENI. Ceux-là qui sont à la CENI ont prêté serment d'indépendance et nous l'appelons même la Commission électorale nationale indépendante. Mais si à tout moment nous devons dire tel doit partir parce que nous nous devons envoyer tel, donc réellement cette CENI maintenant ne sera plus indépendante, nous allons la fragiliser et ceux-là qui seront maintenant à la CENI auront peur d'agir en autonomie et en indépendance parce que c'est 10 ans. On risque de m'interpeller et de me faire partir. Nous fragilisons ces gens. Ça, c'est un. Et puis, de deux, la décrispation du climat politique. Je l'ai très bien dit ici, cette mission, selon l'accord, a été confiée au CENSA. C'est peut-être que nous voulons juste à chaque fois personnifier et qu'on s'est dit, si on doit parler de décrispation, c'est parce qu'il faut elle. Mais aujourd'hui, les bilans ou les statistiques du ministère de la Justice peuvent vous démontrer combien de gens ont été libérés. Il y a plusieurs. Mais tout simplement, la suite, je vous ai dit
ça
dans mon introduction.
Ça prend du temps, ça fait plus d'une année.
Je vous l'ai dit dans mon introduction que c'est lui qui gère. Ceux-là à qui on a confié, c'est le CENSA et le président n'est rien d'autre de là où ils, eux sont. Rassemblement, opposition. Qu'est-ce que lui fait? Qu'il nous dise, que lui vienne répondre à cette question. Je trouve qu'il serait souhaitable que vous puissiez appeler le président du CENSA, qu'il réponde à cette question. Parce qu'on l'a confié cette mission. Que lui dise si réellement c'est la majorité qui bloque.
Les laïcs catholiques, l'opposition, une grande partie de la société civile demande la mise en application intégrale de l'accord. Intégrale, j'insiste sur le mot.
Oui, quand on dit intégrale, qu'est-ce qui reste? Parce que moi je vous dis, je suis déjà à 70. Les 30%.
Et pour vous les 30% c'est quoi?
C'est là où les 30% j'aurais préféré, parce que les 30% sont restés au CENSA. Que le président du CENSA vienne nous dire pourquoi ces 30% bloquent.
Dans la suite, le Rassemblement estime que pour que le processus électoral puisse évoluer, il faut absolument une transition sans Joseph Kabila. On écoute Félix Tshisekedi, président du Rassemblement.
Si, comme nous le souhaitons, nous, ce chemin, ce que nous appelons, nous, une transition vers les élections, se passe sans Kabila, mais le jeu devrait être refait. Vous comprenez? Nous n'aurons plus voir affaire ni à Kabila, ni à un de ses dauphins. Et donc, nous, ce que nous voyons, nous, dans ce que nous disons d'après Kabila, nous partons d'abord d'un constat. Celui qui est là, clair, devant nous. Aujourd'hui, toutes les institutions à mandat électif sont illégitimes. Donc, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose que nous proposons, nous, c'est une transition qui est dirigée, évidemment, qui est menée par des personnalités émanant de la société civile, qui elles-mêmes s'engageraient à ne pas se représenter aux élections futures et donc ils vont avoir les coudées franches pour pouvoir organiser des élections qui soient crédibles.
À ce moment-là,
dans
qui...
une période très courte, on peut faire cela et aller à des élections donc à ce moment-là sans problème.
À ce moment-là, qui mettrait Joseph Kabila de côté? C'est vous, c'est la société civile, c'est la communauté internationale?
Le peuple congolais. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas plus efficace que les marches pacifiques qui sont organisées avec détermination.
Réaction Patrick Kakwata.
Vous savez, aller dans ce schéma, c'est reculer. C'est comme qui dit, nous avançons en reculant. Aujourd'hui, pouvons-nous encore parler d'une transition? Si oui, pouvons-nous encore dire sans le président Joseph Kabila? Pourquoi? La Constitution était claire à l'article 70. Et d'autant plus, il y a un calendrier aujourd'hui, publié par la CENI. On peut traiter ce calendrier de tout le mot qu'on veut. Mais le moins, j'attendais, ou je suis impatient, de voir tous les politiques se dire, comme ce calendrier a été publié, CENI, où en êtes-vous pour que nous puissions avoir maintenant notre tripartite autour de la CENI pour voir la faisabilité de ce calendrier et l'exécution, comment ça va se faire. Mais nous préférons encore rejeter en bloc. Et quand nous rejetons en bloc, avec toutes ces manifestations que nous sommes en train de créer, avec toutes ces frustrations que nous sommes en train de créer, avec les refus...
Avec tous ces morts qui sont enregistrés.
Avec tous ces morts aussi qui sont enregistrés, ne poussera que ce calendrier ne puisse pas être exécuté. Et nous risquons de nous retrouver en fin 2018 sans élection, à force de traîner les pas. Le moins, quand on vous donne quelque chose, c'est de prendre et de venir discuter sur base de ça. La CENI n'a fait que son travail, parce que ce que la CENI a donné n'est pas un texte d'évangile que nous allons dire Amen. Mais c'est juste, la CENI n'a donné qu'une base pour qu'il y ait une discussion. Mais personne ne s'est approprié de cette base. Nous rejetons la base. Nous allons discuter sur base de quoi? Je crois qu'il est souhaitable pour l'instant que nous puissions nous approprier de cette base. Discutons sur base, excusez-moi de la tautologie, mais discutons sur base de ce texte-là. Et s'il faut le rendre potable, consommable au peuple congolais, rendons-le potable et consommable pour que réellement notre pays puisse avoir des élections libres, apaisées, démocratiques et transparentes.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Patrick Thierry André Kakwata Ngunza. Il est député national élu de Kolwezi. Il est président du mouvement des réformateurs libéraux, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Il est également président de la commission environnement et ressources naturelles de l'Assemblée nationale. Une transition sans Kabila, puisque l'opposition, elle estime que Joseph Kabila est le problème.
Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est nous tous Congolais.
Comment ça?
C'est pourquoi je dis, la CENI nous a donné un texte, mais on a refusé de s'approprier. Prenons ce texte, approprions-nous, et nous irons de l'avant. Et il ne fera que s'incliner. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'a le monopole de l'amour de la patrie. La RDC nous appartient à nous tous.
Il faut s'approprier le calendrier électoral au moment où la loi électorale a été promulguée par le chef de l'État et l'opposition et plusieurs analystes estiment que c'est une loi conflictogène avec cette affaire de seuil notamment, de caution. Ça paraît très compliqué.
C'est comme d'un pasteur qui prend juste un verset d'un chapitre et il veut le développer. Il y aura toujours incompréhension. Il faut prendre toute la loi, le lire de l'article premier jusqu'au bout de l'article. Et l'appliquer de cette manière, parce que les articles se complètent et s'entrepénètrent. Le seuil que tout le monde est en train de vouloir parler, le seuil n'a pas de problème. Et nous sommes en train de vouloir monter la population et dire que nous, et je parle ici en tant qu'élu de la population, et nous avons le devoir de vulgariser, nous avons le devoir d'expliquer cette loi. C'est ce qui a manqué. On n'a pas expliqué, on n'a pas vulgarisé la loi. Le seuil n'est rien que d'autre, une des conditions d'éligibilité. Une des conditions d'éligibilité.
À caractère discriminatoire.
Non, je veux vous expliquer. Parce que la proportionnelle que nous avons toujours appliquée, qu'on a appliquée en 2006, qu'on a appliquée en 2011, c'est cette proportionnelle qui continue encore maintenant. Et ce qu'il y a, c'est que pour être élu, il y a un quotient à atteindre. Si vous atteignez ce quotient, vous êtes d'office élu. Cette histoire du seuil ne vous poursuit pas. C'est pourquoi je vous dis, le seuil n'est qu'une condition d'éligibilité. Je vais donner l'explication. Aujourd'hui, la CENI a projeté l'enrôlement à 45 millions d'habitants. Ces 45 millions d'habitants, si nous faisons des calculs, c'est 45 millions pour 500 députés. Le quotient sera pour des sièges électoraux de 90 000 voix. Cela permettra juste qu'on puisse répartir les sièges. 90 000 voix. Mais tandis que maintenant, il y a un quotient électoral du suffrage exprimé. Si dans ma circonscription, nous sommes 200 000 enrôlés ou 200 000 suffrages exprimés le jour du vote et que c'est un, il y a trois sièges à pourvoir. Le quotient est clair, il faut avoir 60 000 voix. Si moi, au moment du vote, j'ai 60 000 voix, je suis d'office élu, même si mon parti politique n'a pas atteint 1% du seuil. Mais le fait que j'ai 60 000 voix dans ma circonscription, j'ai atteint le quotient du suffrage exprimé de ma circonscription. Directement, je suis élu. Ça, c'est un. De deux, si déjà je suis au-delà, parce que le 10% de 200 000 du suffrage exprimé, c'est 20 000, et que moi, j'atteins 20 000 ou 25 000 voix, je suis d'office élu.
Mais,
et de trois, maintenant,
si un des... Pourquoi les indépendants s'étaient-ils plaints?
Un instant, je vais en arriver. C'est pourquoi je vous dis, le seuil n'est rien, ce n'est qu'une condition d'éligibilité, j'insiste. Et si maintenant, dans notre circonscription, à 3 sièges, je n'ai pas atteint le quotient qui est de 60 000 voix, je n'ai pas atteint les 10% qui est de 20 000 voix, je ne suis qu'à 18 000 voix ou à 17 000 voix. Vient maintenant le seuil qui intervient. On regarde quel est le parti qui a atteint un seuil d'1% sur toute l'étendue de la République. On dit, ah, c'est tel parti, voilà que lui a au moins 17 000 voix. Au lieu qu'il tombe, on le répète parce que son parti est représenté valablement sur toute l'étendue de la République parce qu'ils ont au moins atteint 1% du seuil du suffrage exprimé. C'est ça même l'histoire du seuil. Donc le seuil ne vient qu'en troisième condition. Ça c'est un. Parce que quand on vous parle de l'histoire du seuil, il y a des circonscriptions à un seul siège. On n'a pas besoin du seuil. Parce que là c'est à un seul siège. Le plus fort gagne et reste. La proportionnelle est là, elle est d'application. Le seuil va s'appliquer, c'est là où on a maintenant 2 sièges, 3 sièges et tout. Et dit que maintenant aujourd'hui nous avons 150, si je ne me trompe pas, 150 ou 200 circonscription électorale. Sur les 150 ou 200 circonscriptions électorales, nous avons 69 déjà à un seul siège. Donc il dit que nous avons déjà 69 endroits où le seuil ne s'appliquera pas parce que c'est un seul siège, le plus fort gagne direct. Vous me posez la question de savoir pourquoi les indépendants se plaignent. Les indépendants n'ont pas à se plaindre parce que si vous avez déjà, par exemple, dans les circonscriptions à un seul siège, l'indépendant est favorable s'il est le plus fort et qu'il a plus de voix. Il passe. Et si même dans les circonscriptions électorales à 2 sièges, 3 sièges, l'indépendant est sûr qu'il peut atteindre le quotient, qu'il peut dépasser les 10%, il est élu d'office, il n'en a pas besoin de son seuil. Vous vous imaginez que vous êtes dans une circonscription où le quotient est de 60 000 voix, l'indépendant vient, il vous gagne 70 000 voix, on va lui dire vous n'êtes pas élu. C'est faux, il est élu d'office.
Et donc, selon vous, cette loi n'est pas conflictogène?
Elle n'est pas conflictogène. C'est pour ça que je vous dis, c'est d'un pasteur qui ne va que prendre un verset du chapitre et il veut interpréter cela en oubliant le verset premier et en oubliant le verset 33 de tout le chapitre. Et vous comprenez qu'un endroit là, et c'est fini.
Qu'en est-il de la caution jugée exorbitante et qu'on ferait des élections une affaire des nantis?
Non, c'est ce que les gens disent, que la caution est exorbitante. Non. Et ce n'est même pas un problème de nantis. Vous savez, c'est tout simplement, nous sommes encore une démocratie naissante et nous sommes en train d'aller au pas à pas. Dans d'autres pays, je veux prendre le cas de la France par exemple, la caution du président de la République, ce n'est pas de sa poche, c'est le parti qui paye. Et dans ce parti, ce sont les militants qui se cotisent.
Et pour l'indépendant?
Mais l'indépendant, là c'est lui-même, parce que vous l'avez bien appelé indépendant. Moi je parle par rapport au parti d'abord. Les partis ont des militants. Les militants se cotisent. D'ailleurs, même pas, je suis allé plus loin en France, rentrant ici au Congo. En 2006, le secrétaire permanent ou le président du PALU, sa caution, qui ont payé? Ce sont ses militants, 50 000 dollars. Ce sont ces militants qui se sont cotisés $1, $1, $1.
Alors,
ils ont payé. C'est ça même la culture que nous devons inculquer à nos militants dans nos partis. C'est de venir aussi cotiser dans vos partis pour créer vos propres élus.
Un enseignant qui voudrait postuler comme député, est-ce qu'il aura les 1000 dollars pour arriver?
Mais l'enseignant est dans un parti. Ce n'est pas. C'est là le problème, c'est que vous êtes en train de voir l'enseignant en l'isolant. Mais si l'enseignant est dans un parti politique et que les militants du parti politique se cotisent et qu'ils peuvent aligner l'enseignant demain pour dire tu seras notre candidat. Parce que déjà quand le fait que nous les militants nous nous sommes cotisés pour que notre candidat soit aligné, cela va même de pair jusqu'au bout au moment des élections, nous allons le voter parce que nous savons que c'est de notre argent que nous avons donné. C'est la culture que nous devons maintenant inculquer à nos militants, le devoir civique. Et le devoir de se prendre en charge, que si tel, et à ce moment-là, même la personne, quand il va à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale, la personne est redevable parce qu'il sait que ma caution a été payée par les militants. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de députés, quand ils arrivent à l'Assemblée, ils oublient leur base, ils oublient la population, parce qu'ils se disent, c'est ma caution, c'est mon argent, j'ai fait ceci et tout cela, je n'ai pas de redevabilité. Mais au contraire, si vous savez que ce sont eux qui ont payé pour vous votre caution, ce sont eux qui se sont battus pour que vous puissiez passer, vous avez un devoir de redevabilité parce que ce n'était pas votre argent. Donc, enlevons de la tête à vouloir isoler que tel doit avoir de l'argent pour payer. Mais la population ici, elle est capable de tout. Parce que je vous ai donné l'exemple du président Antoine Gizenga. Ils se sont cotisés les militants pour le faire passer candidat président de la République. Et c'est pour ça que vous avez vu que le président Antoine Gizenga ne s'est jamais départi de sa base. Et même pendant son mandat, il était tout le temps avec sa base parce qu'il s'est dit, je suis redevable, c'est de leur argent. Et même celui qui passe directement, il s'est dit, je suis redevable parce que ce n'est pas mon argent. C'est ce que nous devons inculquer. Et nous, au MRL, nous l'inculquons jusqu'à ce jour. Nos militants continuent à cotiser.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Patrick Thierry André Kakwata Ngunza. Il est député national élu de Kolwezi. Il est président du mouvement des réformateurs libéraux, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Il est également président de la commission environnement et ressources naturelles de l'Assemblée nationale. Honorable Kakwata, il y a une confusion autour de la machine à voter. Certains de vos collègues estiment que la machine à voter n'est pas reprise dans la loi électorale, mais on voit la CENI commander des machines et commencer même à faire la sensibilisation déjà. Qu'en est-il réellement?
Il faut faire la part de choses. La machine à voter, elle n'est pas reprise dans la loi électorale, c'est vrai. Mais la CENI nous dit que ce n'est pas une machine à voter.
Et c'est quoi?
Ah, c'est là où nous devons poser aussi la question à la CENI. Parce que nous, on a refusé qu'il y ait vote électronique. La constitution ou notre loi électorale ne permet pas un vote électronique. Cette machine-là, la CENI, doit nous définir quel est son rôle. Mais pour nous, ce n'est pas une machine. Parce que quand vous appelez machine à voter, donc vous n'avez pas besoin de moi. Je ne viens pas voter parce que la machine vote.
Et la CENI a commandé des machines sans que
oui,
vous...
Oui, maintenant ces machines-là...
budgétaire,
ces machines-là, il faut savoir ça s'appelle comment et quel est le rôle. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait approcher la CENI. Mais pour ma part, ce n'est pas une machine à voter.
Est-ce que ça ne devrait pas se faire en amont, cette démarche de la CENI?
En amont, c'est pour ça que je vous dis, pour ma part, approchons la CENI, appelons la CENI qu'elle nous dise ce que vous appelez là, quel est le rôle dans le bureau des votes, comment ça va se passer. Mais un vote électronique, nous tous, on a dit non.
Comment vous entrevoyez la suite de cette année 2018 avec tous ces mouvements, des manifestations, d'appels par-ci, par-là, à des mobilisations? Et entre-temps, le calendrier électoral, on l'a dit au cours de cette émission, a fixé l'élection présidentielle au 23 décembre 2018.
C'est là où j'ai dit nous devons arriver à changer de stratégie. Et que nous devons nous approprier de ces textes de la CENI, donc ce calendrier, et directement le rendre potable et exécutoire. Donc pour ma part, rien ne sert de continuer à des manifestations, mais ce que nous devons faire, c'est un, user beaucoup de sagesse, c'est dépassionner l'amour de la patrie, et que nous puissions s'approprier ce calendrier, aller de l'avant. Qu'on ait réellement des élections. Mais sinon, à cette allure, nous sommes en train d'hypothéquer notre avenir, la République.
Faudrait-il un autre dialogue en ce moment? Parce qu'on voit avec les laïcs catholiques, par exemple, auxquels se sont greffés l'opposition, aller dans le sens des manifestations. La majorité présidentielle pense que le processus est en train de bien se dérouler et a son cap vers les élections. Comment concilier les deux positions pour des élections apaisées?
Le dialogue aura lieu chaque jour, chaque minute, chaque seconde et chaque tierce.
Là, on a l'impression qu'il y a un clash.
Non, c'est l'impression que ça donne. Mais c'est tout simplement, c'est juste changer peut-être le langage. Parce que tout ce qui s'est fait ici, c'est encore un dialogue. Mais le langage, peut-être, il est mal exprimé. C'est question seulement de changer de langage. C'est comme qui dirait, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais au moins, on voit la personne demander. Alors, changeons de langage, usons de stratégies, d'autres stratégies et usons de la sagesse. On obtiendra ce qu'on veut. Quand on veut, on peut.
Honorable Kakwata, l'entretien est en train de se terminer. Vous êtes également président de la Commission Environnement et Ressources Naturelles de l'Assemblée nationale. L'actualité dans ce domaine, c'est aussi le code minier qui est en examen à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à plusieurs analystes et même certains membres de la société civile, voire la communauté internationale, qui pensent que le code de 2002 était bon et qu'il fallait simplement l'appliquer au lieu de le réviser?
Vous devez savoir que tout travail humain est perfectible. Alors, à dire qu'il était bon, je ne dirais pas non. Mais si vous pouvez améliorer, qu'est-ce qui vous est refusé? On peut toujours améliorer.
Et que le bon n'a même pas été appliqué pour
certains. C'est ce qu'eux disent, si le bon n'a pas été appliqué. Le bon a été appliqué, maintenant nous disons, nous améliorons encore pour qu'encore il soit meilleur. Pourquoi il y a bon et puis il y a meilleur? Maintenant là, nous le rendons meilleur.
La nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter en termes d'innovation?
Le code de 2002 ne tenait pas en compte un fonds de génération future. Nous le rendons meilleur pour que maintenant nous puissions tenir compte d'un fonds de génération future, pour que nous tenions compte des générations futures. Les mines ne sont pas des cacahuètes, les mines sont épuisables. Ce n'est pas nous la dernière génération sur Terre. Il y a des générations qui viennent après nous. On va leur expliquer que la République démocratique du Congo était un scandale géologique. Et qu'est-ce que nous leur avons laissé? Nous voulons tout consommer nous-mêmes et dire que le code de 2002 ne tenait pas compte de cela. Voilà que nous le rendons meilleur en créant un fonds de génération future pour que ceux-là qui viendront aussi après nous, même si les mines sont épuisées, mais qu'ils trouvent au moins quelque chose de palpable que nous leur avons aussi laissé. Le code de 2002 ne tenait pas compte de la participation congolaise, de personnes de nationalité congolaise dans les capitales sociales des sociétés. Maintenant là, nous venons d'exiger la participation de personnes de nationalité congolaise, la classe moyenne que nous cherchons. Nous le rendons encore meilleur.
Et pour les populations riveraines qui se plaignent souvent,
le code de 2002,
pas
oui,
d'hôpitaux, pas
le code de 2002 ne tenait pas compte d'un cahier des charges pour ces populations-là. Aujourd'hui, nous venons encore de demander à ce qu'il y ait des cahiers des charges et qu'on puisse consulter et qu'il y ait même leur dernier mot pour une société qui vient de s'installer dans leur environnement. Nous rendons encore meilleur. La situation environnementale, le code de 2002 ne l'éteignait pas comme il se doit. Aujourd'hui, nous avons mis, parce que d'autant plus que la République démocratique du Congo a ratifié l'accord de Paris, le COP 21, nous venons d'obliger la situation environnementale dans le code. Donc vous voyez que nous sommes en train de le rendre meilleur.
Il ne présente selon vous que des avantages.
Parce que ce qu'on devait amener, ce ne sont que des avantages qui peuvent encore permettre à ce que nous ne puissions pas nous dire que c'est nous la dernière génération ici sur Terre.
Patrick Thierry, André Kakwata Ngunza, merci d'être passé à Grande Interview.
Je vous en prie, merci Alain.
Grande Interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Patrick Thierry André Kakwata Ngunza, député national élu de Kolwezi. Il est président du mouvement des réformateurs libéraux, un parti politique membre de la majorité présidentielle et également président de la commission environnement et ressources naturelles de l'Assemblée nationale. Supervision de cette émission, Tina Salama. Réalisation, Dona Madimba. Présentation, Alain Irung-Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.